Chapitre 6. Le 13 août 2016. 9h. Clotilde était allée chercher une baguette, 3 croissants, 1 litre de lait qu'elle tenait dans un sac au bout d'une main, 1 litre de jus d'orange dans l'autre, et s'était égarée. Exprès. Valou dormait encore. Franck était parti courir jusqu'au sémaphore de Caballo. Lors de l'été 89, Clotilde s'en souvenait. Elle était chaque matin de corvée de petit-déjeuner. Elle traînait les pieds en allant chercher du pain frais à l'accueil. Elle zigzaguait dans les allées du camping des Eupproctes en espérant croiser quelqu'un. Mais aucun ado n'était déjà réveillé de si bonne heure. Alors elle inventait un chemin compliqué dans le labyrinthe du camping avant de rentrer. Aujourd'hui, à l'inverse, Clotilde avait coupé au plus court pour se retrouver face au bungalow C29, celui où elle avait passé les 15 premiers étés de sa vie. Elle ne reconnaissait que les volumes, la taille du bungalow, la surface de l'emplacement. Les arbres avaient poussé, de grands oliviers qui tordaient leurs troncs pour former une canopée au-dessus du chalet dont l'emprise au sol avait doublé. Un store électrique, une terrasse, un barbecue, un salon de jardin. Tout avait été modernisé par les bons soins du nouveau directeur des Eupproctes, Cherbone Espinello, qui avait repris avec un sens aiguisé des affaires le camping de son père, Basile. Chaque nouveauté, un court de tennis, un toboggan aquatique, l'emplacement de la future piscine, confirmait à Clotilde qu'il ne restait presque rien du camping nature de son enfance. Ce terrain ombragé qui fournissait seulement un lit pour dormir, de l'eau pour se laver, des arbres pour se cacher. En observant plus en détail l'emplacement C29, Clotilde se fit la réflexion qu'elle ne l'avait jamais revu depuis l'accident. Dans les jours qui avaient suivi le drame, Basile Spinello avait apporté ses affaires à Calvi, dans sa chambre d'hôpital. Un grand sac contenant ses habits, ses mini-cassettes, ses livres. Tous ses objets personnels, sauf celui auquel elle tenait le plus, son cahier. Ce cahier bleu où elle avait inscrit ses états d'âme pendant ce mois d'été. Ce cahier abandonné sur un banc de la bergerie d'Arcano. Il l'avait oublié, ou égaré quelque part dans un couloir du centre hospitalier. Elle n'avait pas osé lui demander. Elle y avait beaucoup repensé à ce moment-là, dans l'avion qui la ramenait directement de l'antenne médicale d'urgence de Balagne à Paris, puis Conflans, chez Joseph et Sarah, les parents de sa mère qui l'avaient élevée jusqu'à sa majorité. Avec les années, elle aussi avait oublié ce cahier. Clotilde se fit la réflexion amusée qu'il l'attendait sans doute toujours quelque part, depuis près de 30 ans, rangée dans le tiroir d'une armoire, glissée derrière un meuble, coincée sur une étagère sous une pile de livres jaunis. Clotilde s'approcha du bungalow C29 en écartant les branches d'un olivier plus petit que les autres, planté face à la terrasse. Elle se souvenait qu'en 1989, il y en avait déjà un, de la même taille, devant sa fenêtre. Peut-être que Cherbone faisait arracher les vieux arbres pour en replanter des neufs. Vous cherchez ? Un type était sorti du bungalow, casquette des Giants de New York coincée au-dessus des tempes grisonnantes, tasse de café à la main, souriant, étonné. Clotilde aimait la convivialité simple des campings. Pas de barricades, pas de haies, pas de palissades. Pas vraiment de chez soi. Juste un chez-nous vaguement délimité. Rien. Un peu plus loin, dans l'allée, 2 gamins jouaient au foot. Vous avez envoyé votre ballon sous le bungalow ? Fit le Giant. À son sourire, Clotilde devina qu'il aurait adoré la voir se mettre à 4 pattes devant la terrasse et trémousser ses fesses moulées dans son legging pour ramper sous le bungalow. À la réflexion, Clotilde détestait aussi cela dans les campings. L'absence des barrières, le brouillage des repères, la convoitise ordinaire. Non, des souvenirs plutôt. Je suis déjà venue en vacances ici, dans ce bungalow.
Vrai ?
Ça doit faire un bout de temps alors. On réserve ce chalet d'une année sur l'autre depuis 8 ans.
C'était il y a 27 ans. Giant se fendit d'un regard épaté qui sous-entendait un compliment muet. Vous ne les faites pas. Derrière lui, une femme apparut. Mug de thé entre 2 doigts, cheveux frisés retenus par une pince en bois, pareo coloré accroché sur sa peau fripée. Souriante, elle aussi. Elle se posta à côté de son mari et s'adressa à Clotilde.
« 27 ans ? Ce bungalow, le C29, c'était donc votre adresse avant ? Excusez-moi, mais une idée me vient comme ça. Vous ne seriez pas Clotilde Idrissi ?»
Sur le coup, Clotilde ne répondit rien. Des pensées idiotes se bousculaient. On n'avait tout de même pas posé de plaque mortuaire sur le bungalow. Ici vécurent Paul et Palma Idrissi. On ne racontait tout de même pas l'accident de ses parents de génération en génération de campeurs depuis plusieurs décennies. Le bungalow maudit. La femme souffla sur sa tasse et glissa une main sous le t-shirt de son giant. Un message subliminal, mais explicite. Il est à moi, celui-là. Le langage universel des corps et des gestes qui vivent à l'air libre le temps d'un été. On expose, on mate, on croise, on frôle. Mais on ne touche pas, même si c'est là, à portée de main. Elle but son thé, lentement, puis continua, enjouée, ravie de jouer les messagères mystères.
« J'ai du courrier pour vous, Clotilde. Il vous attend depuis un bout de temps. »
Clotilde faillit s'effondrer sur place pour la seconde fois en moins d'une minute. Elle s'accrocha à la branche la plus haute du bébé Olivier.
« Depuis 27 ans ?»
bredouilla-t-elle. La femme du Giant éclata de rire.
« Non, quand même pas. On l'a reçue hier. Fred, tu vas me la chercher ? Elle est sur le frigo. »
Giant entra, puis ressortit en tenant une enveloppe. Sa femme se colla à nouveau à lui, tout en déchiffrant l'adresse. « Clotilde Idrissi, bungalow C29, camping des Eprocts, 20260, la Rebellata. » Clotilde encaissa une troisième accélération cardiaque, plus violente encore que les deux précédentes, à en arracher la branche d'Olivier.
« On ne va pas vous demander vos papiers !» fit le Giant en riant. « On allait la porter à la réception, mais puisque vous êtes là... »
Les doigts humides de Clotilde se refermèrent sur la lettre.
« Merci. »
Elle continua de tituber dans l'allée de sable. Ses ballerines laissaient des courbes sinueuses derrière son passage, comme un patineur qui dérape sur un lac gelé. Ses yeux fixaient son nom, son prénom, l'adresse sur l'enveloppe. Elle reconnaissait l'écriture, mais c'était impossible. Elle savait que c'était impossible. Sans qu'elle le prémédite, sans même qu'elle y réfléchisse, Clotilde traversa le camping. Elle devait être seule pour ouvrir cette lettre, et elle ne connaissait qu'un endroit assez secret pour cela. Secret et sacré. La grotte des veaux marins. Un trou dans la falaise auquel on accédait par la mer, ou directement du camping par un petit chemin de terre. Une caverne où, adolescente, elle s'était réfugiée mille fois pour lire, rêver, écrire, pleurer. Elle adorait écrire quand elle était jeune. Elle était même plutôt douée. C'est ce que lui disaient ses profs, ses proches. Puis, les mots s'étaient brusquement enfuis. Ce talent n'avait pas survécu à l'accident. Elle descendit sans difficulté vers sa cachette. Le chemin de sable et de cailloux avait été remplacé par un escalier de pierre cimenté. Les parois de la grotte des veaux marins avaient été décorées de graffitis d'amoureux et de tags obscènes, parfumés d'odeurs de bière et d'urine. Peu importait. La vue sur la Méditerranée, à l'intérieur de la caverne, restait identique, vertigineuse, offrant l'illusion à l'occupant d'être un oiseau marin prêt à fondre d'un simple coup d'aile sur une proie se risquant à la surface de l'eau. Clotilde posa son sac de course, se recula un peu à l'intérieur de la grotte, s'assit sur les rochers frais, presque humides, et, lentement, déchira l'enveloppe. Tremblante, comme lorsqu'on ouvre la lettre d'un amoureux, même si, d'aussi loin qu'elle se souvienne, jamais elle n'avait reçu de déclaration enflammée par courrier. Elle était née quelques années trop tard. Ses soupirants l'avaient draguée par texto, par mail. C'était nouveau et follement excitant alors, les confidences numériques. Et il ne lui en restait rien aujourd'hui. Pas une ligne. Pas un billet glissé dans un livre. Le pouce et l'index de Clotilde sortirent une petite feuille blanche pliée en quatre dans l'enveloppe, la déplièrent. C'était une lettre manuscrite, d'une écriture appliquée, comme celle des vieilles institutrices. « Ma Clo, je ne sais pas si tu es aussi entêtée aujourd'hui que tu l'étais quand tu étais petite, mais je voudrais te demander quelque chose. Demain, lorsque tu seras à la bergerie d'Arcanou, chez Cassanou et Elisabetta. Tiens-toi quelques minutes sous le chêne vert, avant qu'il fasse nuit, pour que je puisse te voir. Je te reconnaîtrai, j'espère. J'aimerais bien que ta fille soit là, elle aussi. Je ne te demande rien d'autre, surtout rien d'autre. Ou peut-être uniquement de lever les yeux au ciel et de regarder Bételgeuse. Si tu savais, Maclo, combien de nuits je l'ai regardée en pensant à toi. Ma vie tout entière est une chambre noire. Je t'embrasse. B. Des vagues frappaient le seuil de la grotte, comme si un dieu l'avait creusée exactement à la bonne hauteur pour qu'elle soit éclaboussée d'embrun sans être inondée. Dans la main de Clotilde, la feuille tremblait davantage que la grand-voile d'un catamaran. Il n'y avait pourtant pas de vent. Juste un matin calme et déjà chaud. Un soleil qui, doucement, commençait à risquer un œil inquisiteur jusqu'au plus profond de la caverne. « Je t'embrasse. » C'était l'écriture de sa mère. « P. » C'était la signature de sa mère. Qui d'autre que sa mère pouvait l'appeler Maclo ? Qui d'autre que sa mère pouvait se souvenir de ces détails ? De son costume de punkette gothique qu'elle n'avait plus jamais enfilé depuis l'accident. De Beetlejuice, Bételgeuse, dans sa traduction francophone. Clotilde avait accroché le poster dans sa chambre à l'époque. C'est maman qui le lui avait offert pour ses 14 ans. Elle l'avait directement commandé de Québec. La traduction canadienne était tellement plus poétique que la version américaine. Clotilde s'avança et observa le chemin qui descendait à la mer, puis au-dessus d'elle celui qui longeait la corniche jusqu'aux plages de l'Alga et de l'Ocheluccia. Au bout du sentier, une ado errait seule, téléphone portable à la main. Peut-être cherchait-elle du réseau ou à lire un message en douce, sans ses parents pour lorgner par-dessus son épaule. Clotilde baissa à nouveau les yeux sur la lettre. Qui d'autre que sa mère pouvait se souvenir de cette phrase qui obsédait Lydia Dietz ? Cette phrase culte de son film culte. Cette phrase que Clotilde avait balancée à la figure de sa mère pour qu'elle lui foute enfin la paix, dans l'intimité et la brutalité d'une dispute, un soir où elles étaient seules toutes les deux. Leur secret, entre mère et fille. Sa mère voulait la traîner en ville le lendemain pour acheter des habits présentables, c'est-à-dire confortables, colorés, féminins. Clotilde, avant de claquer la porte de sa chambre au nez de sa mère, lui avait jeté les paroles désespérées empruntées à Lydia Dietz. Cette réplique comme un résumé de sa vie d'adolescente. « Ma vie tout entière est une chambre noire. Une grande, belle chambre noire. »